Bonjour, au micro Idrissa Sidoudia. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Dernière minute, l'AFP citant des résidents signale des tirs nourris dans la nuit près de la présidence à Niamey au Niger. La Cour pénale internationale décide ce mercredi si elle confirme ou annule l'acquittement prononcé en 2019 de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, premier ancien chef d'État qu'elle a jugé lors d'un procès pour crimes contre l'humanité liés aux violences post-électorales en 2010 et 2011. La chambre d'appel de la CPI pourrait clore l'affaire en confirmant l'acquittement ou au contraire ouvrir la voie à un nouveau procès souhaité par l'accusation. La procureure générale sortante de la Cour, Fatou Bensouda, a interjeté appel en septembre 2019, 8 mois après l'acquittement. Au Congo-Brazzaville, 2 recours ont été déposés contre la réélection écrasante du président Denis Sassou Nguesso avec 88,57% des voix, selon des résultats provisoires du scrutin du 21 mars, les partisans de son principal opposant, Guy Brice Parfait-Kolela, victime du Covid-19 le lendemain du scrutin, est crédité de 7,84% des voix, ont déposé lundi un recours devant la Cour constitutionnelle pour demander l'annulation du scrutin, estimant que leur candidat a été empêché de faire campagne à partir du vendredi 19. L'autre candidat de l'opposition, Mathias Zon, 1,90% des voix, avait déposé dès la fin de la semaine dernière un recours en annulation de l'élection. Par ailleurs, 14 organisations de défense des droits humains ont demandé mardi la libération d'un militant des droits humains et d'un journaliste arrêté avant le scrutin du 21 mars. Nous y reviendrons avec notre correspondant à Brazzaville, Arsène Séverin. En République démocratique du Congo, on a appris hier que 13 personnes ont été tuées lundi à l'arme blanche dans des affrontements entre 2 communautés rivales du Kasaï dans le centre du pays, théâtre de violence entre 2016 et 2017. Claire Morin-Gibourg nous donnera les détails. Une enquête de l'ONU conclut qu'une frappe aérienne conduite par l'armée française au Mali en janvier a tué 19 civils réunis pour célébrer un mariage et pas seulement des djihadistes comme Paris a persisté à le dire mardi. Un euro symbolique a été remis mardi à Bamako, à l'État malien et à la communauté internationale, représentée par l'UNESCO en réparation de la destruction en 2012 par des djihadistes d'une partie des mausolées de Tombouctou dans le nord du Mali. Notre correspondant à Tombouctou, Alousséni Aladji, y reviendra dans quelques instants. Les États-Unis et 13 pays alliés ont exprimé mardi leurs préoccupations dans une déclaration commune au sujet du rapport de l'OMS sur l'origine du Covid-19, réclamant à la Chine de donner pleinement accès à ces données. Mohamedou Houmfa nous donnera des détails. La crise sanitaire a retardé de plus d'une génération le temps nécessaire pour parvenir à l'égalité homme-femme, selon l'étude annuelle publiée mercredi par le Forum économique mondial, organisation connue comme le Forum économique de Davos. Le président américain Joe Biden a annoncé mardi ses premières nominations pour des postes de juges fédéraux, a confirmé par le Sénat. Il a mis l'accent, en rupture avec son prédécesseur Donald Trump, sur la diversité. Parmi ces nominations, la juge africaine-américaine Ketanji Brown Jackson, 50 ans, qui doit remplacer le nouveau ministre de la Justice, Merrick Garland, à la Cour d'appel de Washington, et Zahid Qureshi, 45 ans, qui deviendrait le premier juge fédéral musulman des États-Unis. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington, D.C. la suite de nos informations. Au Congo-Brazzaville, une quinzaine d'ONG appellent à la libération immédiate d'un journaliste et d'un activiste des droits humains en détention depuis des jours. La société civile juge ces détentions arbitraires et dénonce le fait que l'activiste ne reçoit aucune visite de membres de sa famille ni de ses collègues. Des détails avec notre correspondant à Brazzaville, Arsène Séverin.
Il s'agit du journaliste Raymond Malonga, arrêté chez lui le 2 février dernier, et de l'activiste des droits humains Alex Ibikanzaba, pris devant son domicile le 11 mars. Si le journaliste attend toujours son procès en correctionnel, le second, lui, n'a pas accès à son avocat et ne bénéficie pas de visite de sa famille. Les ONG estiment que ces arrestations sont illégales et donc leur détention arbitraire. Elles exigent leur libération immédiate et sans condition. Joe Washington Ebina, l'un des leaders de la société civile congolaise.
Un monsieur de 77 ans qui est mal portant. Sa santé est précaire, donc nous sommes très inquiets en ce qui concerne le docteur Alain Zabana. Nous sommes aussi inquiets parce que Raymond Malonga, journaliste de Saint-Piment, est aussi dans une situation difficile. Il n'y a pas de délit d'opinion, il n'y a pas de délit de presse au Congo. Donc pourquoi il est en prison? Donc toutes ces procédures-là ne sont pas dans la légalité.
Dans leur déclaration, les activistes ont demandé que cessent toutes les attaques à leur encontre. Les ONG ont également informé l'opinion de l'arrestation le week-end dernier d'un autre activiste, Chris Ndongi. Sa situation et le motif de son arrestation par les services de police ne sont pas encore clarifiés. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
On ne l'a appris qu'hier, en République démocratique du Congo, 13 personnes ont été tuées lundi à l'arme blanche dans des affrontements entre deux communautés rivales du Kasaï dans le centre du pays, Claire Morin-Gibourg.
Les 13 corps ont tous été décapités à la machette, rapporte Ferdinand Pochamba, ministre provincial de la Santé du Kasaï. Les violences ont eu lieu lundi dans la localité de Bukuakende, que se disputent depuis 2015 les provinces du Kasaï et sa communauté Kuba, et celle du Kasaï central et les Luba. Plus d'une centaine d'habitations ont été incendiées, dont celle du sénateur Évariste Boshab. La ville est désertée et près de 20 000 personnes sont en brousse. Pour Ferdinand Pochamba, le bilan pourrait être plus élevé. Notre 5-4-3-2-1-0. 9 personnes sont grièvement blessées, dont 4 dans un état très critique à l'hôpital. Le gouverneur du Kasaï, Dieudonné Piémé Toutoko, dénonce la présence d'hommes armés arrivés par train de la province voisine pour massacrer la population. Entre septembre 2016 et mars 2017, la région du Kasaï a été le théâtre d'un violent conflit après la mort d'un chef traditionnel, Kamina Tsapou, tué dans une opération des forces de sécurité un mois auparavant. Plus de 3000 personnes avaient alors été tuées dans ces violences entre les forces de sécurité et les milices des partisans de ce chef, avec 1,5 million de déplacés.
Les États-Unis et 13 pays alliés expriment leurs préoccupations dans une déclaration commune au sujet du rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur l'origine du Covid-19. Ces pays demandent à la Chine de donner pleinement accès à ces données. Mohamedou Houmfa nous en dit plus.
Le rapport sur l'origine du nouveau coronavirus rendu public par les experts missionnés du 14 janvier au 9 février en Chine ne fait pas l'unanimité. Washington et 13 pays alliés ont fait part de leurs préoccupations partagées au sujet du rapport. L'étude d'experts internationaux sur l'origine du virus SARS-CoV-2 a été retardée de manière significative et n'a pas eu accès de manière exhaustive aux données et échantillons originaux, affirme le gouvernement américain, avec les autres pays dont le Royaume-Uni, Israël, le Canada et le Japon. Selon les éléments du rapport, ces auteurs jugent la transmission du virus à l'être humain par un animal intermédiaire probable à très probable, tandis que l'hypothèse d'un incident de laboratoire est au contraire qualifiée d'extrêmement improbable. Le rapport de l'OMS est un premier pas utile, mais les investigations supplémentaires devront être poursuivies, a réagi de son côté l'Union européenne, estimant qu'il faudra encore avoir accès à tous les lieux appropriés et toutes les données disponibles. Pour sa part, le patron de l'OMS réclame une enquête sur l'hypothèse d'une fuite du virus d'un laboratoire en Chine une hypothèse jugée la moins probable dans le rapport critiqué. Cela demande d'enquêter plus avant, probablement avec de nouvelles missions, avec des experts spécialisés que je suis prêt à déployer, a assuré le docteur Tedros Adhanom, directeur général de l'organisation onusienne en charge de la santé.
Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Au Bénin, la Sodeco, la société pour le développement du coton, premier égraineur de coton africain, vient d'obtenir un financement structuré pré-exportation de 70 millions d'euros auprès d'un pool de banques internationales emmené par Natixis. Le Bénin est le premier producteur de coton africain depuis 2018. La Banque mondiale accorde 100 millions de dollars en faveur du secteur agricole en Guinée. Cet accord de financement intervient dans le cadre du projet de développement de l'agriculture commerciale dans le pays. L'enjeu de cet accord, selon la BM, est la diversification de l'économie guinéenne, fortement dépendante du secteur minier, en passant d'une agriculture de subsistance à une agriculture commerciale destinée à contribuer à la réduction du chômage en zone rurale. La croissance mondiale est en train d'accélérer, tirée par les États-Unis et la Chine, s'est félicité hier la patronne du Fonds monétaire international, mais elle a pointé aussi les risques d'une reprise désynchronisée entre les pays. La révision à la hausse de la croissance s'explique en partie en raison du soutien politique supplémentaire dont le plan gigantesque de 1900 milliards de dollars du président américain Joe Biden et en partie par les effets attendus plus tard dans l'année des campagnes de vaccination dans de nombreuses économies avancées.
L'espoir à présent avec Bagassi Koura.
Bonjour à tous. La CAN 2021, le tableau est presque complet. 23 des 24 qualifiés sont désormais connus à l'issue de cette sixième et dernière journée. On reviendra sur la dernière sélection restante dans un instant. Mais d'abord, un tour rapide des pays qualifiés avec Élisée Mpatine à Boïcon au Bénin.
5 tickets à prendre pour cette dernière journée. Finalement, 4 ont été distribués et en attendant le dénouement du match Sierra Leone-Bénin, la Mauritanie va disputer sa deuxième phase finale de CAN de suite après avoir validé sa qualification sur la pelouse de la Centrafrique 1-0, but d'Aboubacar Camara. Qualification également de l'Éthiopie, bien que battue 3-1 par la Côte d'Ivoire. Les Wilias profitent du nul 0-0 de Madagascar à domicile face au Niger pour valider leur billet 8 ans après leur dernière participation à la CAN en 2013. Et puis, en s'imposant devant le Congo 2-0 pour la finale du groupe I, la Guinée-Bissau a décroché la troisième CAN d'affilée de son histoire. Enfin, absent des deux dernières éditions, le Cap Vert va effectuer son grand retour à l'occasion de la CAN 2022. 4 jours après leur succès face au Cameroun 2-1, les requins bleus ont enchaîné et fini le travail en s'imposant 1-0 sur le terrain du Mozambique, un concurrent direct. On connaît désormais donc 23 des 24 qualifiés pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Le dernier sera connu à l'issue du décisif match Sierra Leone-Bénin du groupe L reporté. De nouveau seront à leur toute première participation les Comores et la Gambie. Le Burkina Faso et le Gabon retrouvent la CAN après avoir manqué l'édition précédente. La Guinée équatoriale va participer à sa troisième CAN, mais c'est bien la première fois que le Nzalang se qualifie sur le terrain des éliminatoires. Pour le reste, ce sont des habitués de la grande messe du foot africain, notamment l'Algérie, championne en titre, le Sénégal, finaliste de la dernière édition, ou encore le Maroc, l'Égypte, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Mali. Pour rappel, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations aura lieu au Cameroun en janvier 2022. Boïcon, Élisée Mpati, VOA Afrique.
Oui, le match Sierra Leone-Bénin qui devait désigner hier le 24e qualifié a été annulé et aucune nouvelle date fixée après que 6 cas positifs du Covid-19 dans l'équipe béninoise ont été détectés au dernier moment, entraînant un imbroglio. Indiqué un responsable Sierra Leonais, la CAF a pris la décision d'annuler le match, a déclaré tard dans la soirée le porte-parole de la Fédération Sierra Leonaise de football, Ibrahim Camara. La délégation des écuries du Bénin avait fait part de son grand mécontentement après que ces 6 cas positifs ont été détectés dans son équipe peu avant le match, dont les meilleurs éléments, Steve Mounier et Jodel Dossou, selon des médias béninois. L'équipe entraînée par le français Michel Dussuyer était arrivée au stade de Freetown, mais n'était pas descendue du bus, selon un haut responsable du ministère des Sports.
Ajoutons Bagassi que le Rwanda va accueillir à la Kigali Arena la première édition de la Basketball Africa League du 16 au 30 mai, a annoncé mardi la Fédération internationale de basketball, la FIBA. 12 équipes de 12 pays différents s'affronteront. La première édition de cette compétition, créée avec le soutien de la FIBA et de la NBA, était prévue pour 2020, mais a été reportée d'un an à cause de l'épidémie de coronavirus. Aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, un euro symbolique a été remis hier à Bamako, à l'État malien et à la communauté internationale, représentée par l'UNESCO, en réparation de la destruction en 2012 par des djihadistes d'une partie des mausolées de Tombouctou dans le nord du pays. Une cérémonie saluée par les habitants de cette ville du nord, de Tombouctou, notre correspondant Alousseni Aladji.
Ces deux dommages avaient été accordés à l'issue du procès historique d'un djihadiste malien par la Cour pénale internationale, CPI, laquelle avait pour la première fois considéré la destruction de biens culturels comme un crime de guerre. Cette cérémonie marque la matérialisation de l'ordonnance de réparation prononcée par le juge Raoul Pangalanga le 17 août 2017 dans l'affaire Ahmed El Faki Al-Mahadi. C'est en présence du président de la transition, de Madame le procureur Fatou Ben Souda et des représentants des victimes que s'est déroulée ce mardi la cérémonie de remise de l'euro symbolique aux autorités maliennes. Pour les populations de Tombouctou, en l'occurrence les victimes, en dehors du fonds alloué à Tombouctou, cette cérémonie de réparation est une façon de panser une plaie béante qui dure depuis 9 ans. Abdulhamid Kunta est descendant de saint à Tombouctou.
La vérité, le mausolée de Tombouctou concerne toutes les Tombouctiens. C'est pour cela que nous on a l'habitude de dire les Tombouctiens, ils sont tous des petits-fils de ce mausolée-là. Pardonner à une personne qui a fait du mal, il a demandé de pardonner. Le Faki, quand même, même s'il n'y a pas de Tombouctou, mais il est du Mali, il dit non. Donc il n'y a pas de problème, nous on a accepté le pardon d'El Faki.
1 milliard a été alloué à Tombouctou pour la présidente du conseil de direction du fonds au profit des victimes, Doumbi Yamama Koité. Cette somme sera répartie entre 1000 personnes, dont 300 sont déjà prises en charge. Une autre partie du fonds servira à financer les activités génératrices de revenus sur une durée de 3 ans. Doumbia Mama Koité.
Nous avons d'abord procédé à l'identification des victimes. Ce travail nous a pris au moins une année. Nous avons même commencé à distribuer le fonds. 1000 personnes sont concernées. Pour le moment, nous avons pu toucher 300 personnes. Il y a encore beaucoup de personnes à servir. Nous avons les références de tout le monde. Cependant, il faut noter que la prise en charge s'est faite dans la confidentialité, sans médiatisation, pour permettre aux victimes de bien utiliser les fonds. Après, c'est aux Tombouctouciens de nous dire où est-ce qu'ils veulent qu'on investisse le reste de l'argent.
Le maire de la commune urbaine de Tombouctou, Aboubakrine Al-Hadj Cissé, s'est rendu également à la cérémonie de Bamako. Pour lui, ce dédommagement devrait interpeller la conscience de chacun dans sa commune pour la protection du patrimoine culturel de Tombouctou.
C'est un événement qui constitue pour nous une fête. C'est la réparation de toutes les destructions qui ont été effectué en 2012. Cette réparation ne va que réconforter les communautés qui se sont vues meurtries par ces actions.
En hommage aux victimes des crimes commis à Tombouctou, un monument a été érigé dans la foulée de la cérémonie de remise au Musée national de Bamako. Alousseni Aladji, Tombouctou, pour VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Depuis plus d'une semaine, les prix des hydrocarbures sont en hausse au Burkina Faso, 10 francs CFA de plus sur le litre de carburant et 500 francs CFA de plus sur la bouteille de gaz butane de 12 kg. Cette augmentation est mal accueillie par les consommateurs. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Depuis mardi, les prix à la pompe des hydrocarbures, Super 91, gasoil et pétrole ont subi une augmentation de 10 francs. L'annonce a été faite par le ministère du Commerce dans un communiqué signé le 19 mars. Le prix de la bouteille de gaz butane de 12,5 kg passe de 5 000 à 5 500 francs CFA et même plus dans certains points de vente. Le carburant, le Super 91, le gasoil et le pétrole, eux connaissent une augmentation de 10 francs CFA. Du coup, les revendeurs ont des problèmes avec les consommateurs. Mahamadou Tiendrebeogo est revendeur.
Les Français, c'est nous qui avons augmenté les prix. C'est pas notre problème aussi. C'est là.
Les consommateurs n'apprécient pas cette augmentation. Rasmane Djigempouri est un consommateur.
Je ne suis pas du tout content parce que le prix va très mal. Les choses ne marchent pas comme avant. Et s'il y a des augmentations comme ça, la vie devient un peu compliquée. Le 2000 francs pour une bouteille de 6 kilos, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ça. 12 kilos, ça devient 6 000. Si l'augmentation est au dépôt, donc les revendeurs aussi doivent augmenter pour pouvoir aussi à manger et puis payer leur location aussi.
Nouveau prix de la bouteille de gaz butane de 12 kg passe à 5 500, 6 000 et plus. Sur les hydrocarbures, il y a eu 10 francs d'augmentation et le gaz, 500 francs d'augmentation. Cette augmentation n'est pas la bienvenue maintenant, au regard déjà de la cherté de la vie, selon la Ligue des consommateurs. Dasmane Traoré est le président de la Ligue des consommateurs du Burkina.
Au jour d'aujourd'hui, en effet, on assiste à une augmentation sans précédent des produits de première nécessité non seulement, mais aussi des produits de façon générale. Tant et si bien que le consommateur se débat, et c'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il n'était pas opportun d'augmenter encore les difficultés que les consommateurs ressentent en ce moment. Surtout que très bientôt nous avons la Pâque et le mois de Ramadan qui constituent des périodes de grande consommation, de forte consommation, si bien que augmenter encore les tarifs au niveau de l'hydrocarbure et du gaz, ce serait augmenter la difficulté liée donc au quotidien du consommateur. Et principalement sur le gaz, nous disons que c'est inopportun, d'autant plus que au séjour où on assiste à des pénuries de gaz, non seulement il n'est pas disponible, si on augmente encore le prix, ça va renchérir le coût sur le terrain au point où le consommateur aura de la peine à s'en sortir.
Le gouvernement pointe du doigt les prix sur le marché international. Ousseni Tamboura, porte-parole du gouvernement.
Il s'agit d'une situation du marché international qui nous impose nécessairement des réajustements. Ce qu'il faut faire, c'est de voir comment ce réajustement qui s'impose pour des raisons économiques et peut être amorti pour la population. C'est de cela qu'il s'agit.
En attendant, les populations devront commencer à faire avec ces augmentations. Elles espèrent que bientôt, le gouvernement va procéder à une éventuelle diminution. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
L'armée camerounaise a annoncé avoir déployé des troupes à sa frontière nord avec le Nigeria après une série d'attaques du groupe terroriste Boko Haram, selon les autorités qui ont déclaré avoir également déployé des milices villageoises d'autodéfense. Reportage de Moki Edwin Kinzeka, le récit est de Mohamedou Humfa.
Depuis samedi dernier, l'activité économique tourne au ralenti dans la localité de Dabanga, dans l'extrême nord du Cameroun. Samedi, en effet, des combattants présumés de Boko Haram ont tué au moins 50 animaux et chassé des centaines de civils lors d'une attaque armée. Donald Koulbé, 52 ans, est éleveur. Il dirige le marché du bétail de Dabanga. Il a parlé à VOA depuis Dabanga via le réseau social WhatsApp.
Avant le Covid, c'est-à-dire 2019, j'avais déclaré un chiffre d'affaires de 37 millions annuellement. Avec le Covid, je suis arrivé à 27 millions, cette fois-ci à 19 millions. Les charges ont dépassé les 19 millions. La masse salariale, la consommation électrique.
Plusieurs dizaines de personnes ont fui pour sauver leur vie et se cachent toujours dans les buissons, dans les zones proches du village, selon Donald Koulbé. Les villageois ont identifié au moins 20 cadavres après le combat entre les assaillants et l'armée camerounaise. Selon Midiyawa Bakari, gouverneur de la région de l'extrême nord du Cameroun, frontalière de l'État nigérien de Borno, qui est l'épicentre du groupe terroriste, plus de 100 combattants ont attaqué une base militaire à Dabanga samedi. Lourdement armés, ils se trouvaient à bord de 6 camionnettes et de 20 motos. Il s'est confié à VOA depuis Maroua, capitale de la région de l'extrême nord du Cameroun.
Nous avons perdu un de nos voyants éléments. Deux autres ont été blessés, mais référés vers nos hôpitaux. leur pronostic vital n'est pas du tout engagé. Le bilan d'un côté ennemi est d'une vingtaine d'assaillants Boko Haram qui ont été neutralisés. Leurs six pick-up lourdement armés ont été récupérés. Environ six motos également ont été récupérées. Et malheureusement, nous avons perdu deux civils, dont une femme grosse.
Boko Haram n'a pas revendiqué la responsabilité de l'attaque. Mais ce mardi, les autorités camerounaises ont affirmé disposer des renseignements selon lesquels plusieurs centaines de combattants de Boko Haram, lourdement armés, se cachent à sa frontière nord avec le Nigeria, planifiant des attaques contre le Cameroun. L'armée camerounaise assure que ses troupes ont été déployées pour protéger la zone frontalière. Elle recommande aux civils d'être vigilants et de signaler les visiteurs suspects dans leur village. La dernière attaque d'envergure de Boko Haram dans cette région remonte à mai 2014. Le groupe terroriste avait lancé un assaut contre un camp de constructeurs routiers à Ouaza, non loin de Dabanga, tuant un soldat camerounais et volant 10 véhicules et un conteneur d'explosifs. Dans la foulée, 10 travailleurs chinois avaient été enlevés. Ils ont été libérés quelques mois plus tard, en octobre, avec 18 autres otages. Le gouvernement camerounais avait nié avoir payé une rançon pour obtenir la libération.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les leçons du rapport Duclerc sur le rôle de la France au Rwanda pendant le génocide des Tutsis. Une commission composée de 14 historiens établit que la France porte des responsabilités accablantes dans ce drame qui a coûté la vie à au moins 800 000 personnes. Un rapport salué aussi à Paris qu'à Kigali, où l'on parle d'un pas important vers une compréhension commune du rôle de la France. Ce rapport fera-t-il bouger les lignes dans les poursuites contre les suspects du génocide? Aidera-t-il à réparer les relations entre les deux pays? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a promis que son pays allait se doter d'équipements adéquats pour éviter une répétition de l'incident ayant bloqué le canal de Suez. Il s'est rendu à Ismaïlia sur cette voie stratégique au lendemain de la remise à flot de Lever Given, un porte-conteneur qui était coincé en travers du canal depuis le 23 mars. Ce bateau a bloqué le trafic maritime pendant près d'une semaine. Eric Manirakidza a joint ici aux États-Unis Jean-François Seznek, spécialiste des affaires et de la finance au Moyen-Orient.
Le commerce international a souffert pendant une bonne semaine. Mais ce qui est remarquable, c'est que quand même, ça s'est pas trop mal passé parce qu'ils ont pu faire passer déjà plus de 70 bateaux. Et donc, ça voudrait dire que les conséquences seront... Bon, pas mal de gens vont perdre de l'argent, hein, mais les conséquences seront pas quand même très très graves. On ne sait pas vraiment qui va perdre, qui va gagner. Il est certain que, par exemple, des pays qui ont besoin de gaz vont avoir un petit peu de retard sur les livraisons de gaz, mais je ne pense pas que ça ce soit trop, trop grave quand même.
Et ça va avoir des conséquences sur les consommateurs?
Oui, et ça va sans doute dire que les prix vont souffrir un petit peu vers le haut pendant une quinzaine de jours ou un bon mois quand même, oui.
Est-ce qu'il y a moyen de rattraper ce manque à gagner enregistré?
Non, pas vraiment. Je pense que c'est vraiment un peu de l'argent perdu. Mais ce qu'ils vont sans doute faire, c'est dépenser pas mal d'argent pour essayer d'éviter ce genre de problème dans le futur.
Est-ce qu'il y a moyen de prévenir ce genre d'incident dans l'avenir?
Ah oui,
qu'il faut faire?
Absolument. Vous savez qu'il y a 5 ans, le canal avait été élargi et doublé par endroits. Mais il ne l'avait pas fait sur toute la longueur. Et je pense que maintenant, ils vont être obligés de voir qu'il va falloir doubler le canal sur toute la longueur. Une fois que le canal est doublé sur toute la longueur, à ce moment-là, le plus gros de ces problèmes sera passé. Et ça va coûter très cher et prendre une bonne dizaine d'années à faire, mais c'est absolument nécessaire.
Jean-François Seznek est spécialisé dans les affaires et la finance au Moyen-Orient. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seloulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.